Chapitre 7. Alors que George IV régnait encore dans les solitudes de Windsor, que le duc de Wellington était premier ministre et M. Vincey maire de la vieille cité de Middlemarch, Mrs. Casaubon, née Dorothée Brooke, avait entrepris son voyage de noces à Rome. À cette époque, c'est-à-dire il y a 40 ans, le monde était en général plus ignorant du beau et du laid qu'il ne l'est aujourd'hui. Les voyageurs arrivaient rarement la tête ou les poches pleines de renseignements exacts sur l'art chrétien. Le romantisme, qui a contribué depuis, par l'amour et par la science, à combler certaines lacunes obscures, n'avait pas encore pénétré ces temps de son levain et n'était pas entré dans la nourriture journalière de chacun. Il était encore, sous la forme d'un vigoureux et bruyant enthousiasme, à l'état de fermentation dans l'âme de certains artistes allemands à longs cheveux qui étudiaient à Rome, entraînant parfois dans le mouvement des idées nouvelles les jeunes gens des autres nations qui travaillaient ou flânaient à côté d'eux. Par une belle matinée au Vatican, un jeune homme dont les cheveux n'étaient pas démesurément longs, mais abondants et bouclés, et dont l'équipement dénotait d'ailleurs un Anglais, venait de tourner le dos au torse du belvédère pour regarder le magnifique paysage de montagne qu'on aperçoit du vestibule circulaire voisin. Il était assez absorbé dans cette contemplation pour ne pas remarquer l'approche d'un jeune Allemand qui venait à lui d'un air animé et qui, lui mettant une main sur l'épaule, l'interpella avec un accent prononcé « Venez vite par ici, pourvu qu'elle n'ait pas changé de bose !» Les deux jeunes gens passèrent rapidement auprès du méléagre, se dirigèrent vers la salle où l'Ariane couchée, alors appelée la Cléopâtre, repose voluptueusement dans sa beauté de marbre, entourée des plis harmonieux de sa draperie comme d'une tendre corolle. Ils arrivèrent à temps pour voir, appuyée contre un piédestal, auprès du marbre blanc de l'Ariane, une autre statue vivante qui ne pâlissait pas à côté de l'Ariane, une jeune femme habillée de draperie grise à la façon des Quakers. Son long manteau, agrafé au cou, était rejeté de chaque côté des épaules. Elle avait la joue appuyée sur sa main, dégantée et de forme admirable, son chapeau de castor blanc légèrement repoussé en arrière et faisant à un visage une sorte d'auréole autour de ses cheveux noirs simplement tressés. Elle ne regardait pas la statue voisine. Ses grands yeux fixaient rêveusement un rayon de lumière qui venait de tomber sur les dalles. Aussitôt qu'elle s'aperçut de la présence des deux étrangers qui s'étaient arrêtés brusquement, comme pour contempler la Cléopâtre, sans les regarder, elle se détourna et s'empressa d'aller rejoindre une femme de chambre et un courrier qui flânaient un peu plus loin dans la salle. « Que dites-vous de ce beau morceau d'antithèse ?» dit l'Allemand, cherchant sur la figure de son compagnon une admiration répondant à la sienne. Ici, étendue, la beauté antique, qui n'a rien d'un cadavre même dans la mort, fixée dans le ravissement suprême de sa perfection physique. Et là, debout, près d'elle, la beauté qui vit, qui respire, avec l'empreinte des siècles chrétiens dans son cœur. Mais elle devrait porter un costume de religieuse. Il me semble qu'elle a un peu l'air de ce que vous appelez un Quaker. Je l'habillerai en religieuse dans mon tableau. Quoi qu'il en soit, elle est mariée. J'ai aperçu un anneau de mariage à cette merveilleuse main, sans quoi j'aurais pris le Geistlicher Blaffar pour son père. J'ai vu qu'il la quittait il y a un bon moment, et c'est tout à l'heure que je l'ai retrouvé dans cette pose sublime. Mais qui sait, c'est peut-être un Richard, et il voudrait peut-être faire faire le portrait de sa femme. Ah, la voilà qui s'en va. Suivons-la jusqu'à chez elle. Non, non, répondit son compagnon avec un léger froncement de sourcils. « Vous êtes étrange, Ladislav. Vous m'avez l'air frappé. Est-ce que vous la connaissez ?»« Je sais qu'elle est mariée à un petit cousin à moi, » dit Ladislav, descendant la longue salle d'un air préoccupé, tandis que son compagnon l'observait avec intérêt. « Comment ? Le Geistlicher ? Il m'a plutôt l'air d'un oncle, ce qui est un degré de parenté plus utile. »« Il n'est pas mon oncle. Je vous dis qu'il est mon petit cousin. » reprit Ladislav avec quelque irritation. Bien, bien, ne vous fâchez pas. Vous ne m'en voulez pas, parce que je trouve que Madame Petite Cousine est la plus parfaite jeune madone que j'ai jamais vue. Fâchée, quelle sottise! Je ne l'ai jamais vu qu'une fois, et encore pendant 2 minutes, quand mon cousin me l'a présenté avant mon départ d'Angleterre. Ils n'étaient pas mariés alors. Je ne savais pas qu'ils dussent venir à Rome. Mais à présent, vous irez les voir. Vous découvrirez leur adresse, puisque vous savez leur nom. Voulons-nous aller à la poste? Et puis vous pourrez leur parler du portrait. Le diable soit de vous, Naumann. Je ne sais pas du tout ce que je ferai. Je ne suis pas aussi enflammé que vous. Bah, c'est parce que vous n'êtes qu'un amateur, un dilettante. Si vous étiez artiste, vous verriez dans Madame Petite Cousine la forme antique animée par le sentiment chrétien, une sorte d'Antigone chrétienne, la force physique tempérée par la passion spirituelle. Oui, et je verrai aussi que le but principal de son existence était de vous servir de modèle, la divinité atteignant le plus haut degré de perfection, uniquement parce que vous aurez couvert de couleurs votre morceau de toile. Amateur, tant que vous voudrez. Mais je ne pense pas que tout l'univers tende et converge à l'obscure signification de vos tableaux. Mais si fait, mon cher, l'univers y tend, jusque dans ma personne, à moi, Adolphe Naumann. Cela est évident, dit le bon peintre posant sa main sur l'épaule de Ladislas, et sans se laisser déconcerter par l'accent inexplicable de mauvaise humeur qui perçait dans le ton de son ami, « Voyez un peu, mon existence présuppose l'existence de l'univers, n'est-ce pas ? Ma fonction est de peindre, et en qualité de peintre, je me fais une conception générale de votre arrière-grand-tante ou arrière-grand-mère comme motif de peinture. Par cela même, l'univers se rattache à mon tableau. À l'aide du crochet ou de la pince qu'il a créée, sous la forme de mon être, n'est-ce pas clair ? Will ne put résister à cette bonne humeur imperturbable, et le nuage qui couvrait son front s'évanouit en un rire lumineux. « Venez maintenant, mon ami, vous m'aiderez ?» dit Naumann d'un ton plein d'espoir. « Non, sottise, Naumann. Les ladies anglaises ne sont pas des modèles au service de chacun. Et puis, vous prétendez exprimer trop de choses avec votre peinture. » Vous auriez fait, et voilà tout, un portrait plus ou moins bon, avec un fond quelconque, qui aurait plu à quelques connaisseurs, n'est plus à d'autres. Et qu'est-ce que le portrait d'une femme? Dessin et couleur sont peu de choses, après tout. C'est fait pour troubler et obscurcir les conceptions au lieu de les élever. Le langage est un interprète autrement noble. Oui, pour ceux qui ne savent pas peindre. Ici, vous avez bien raison. Je ne vous ai jamais engagé à faire de la peinture, vous, mon ami. » L'aimable artiste venait de lancer sa flèche, mais Ladislas ne voulut pas en paraître piqué. Il continua comme s'il n'avait rien entendu. « Le langage nous représente une image bien plus complète, et d'autant meilleure encore quand elle a un peu de vague. Après tout, la véritable faculté de voir est en nous, et la peinture nous frappe l'œil comme une imperfection constante. C'est surtout devant des portraits de femmes que je sens cela. Comme si une femme n'était qu'un simple plan coloré. Vous restez devant, à attendre qu'elle bouge et qu'elle parle. Il y a des nuances jusque dans chaque battement de sa respiration. Elle change d'un moment à l'autre. Tenez, cette femme que vous venez de voir, comment peindriez-vous sa voix, s'il vous plaît? Mais sa voix est bien plus divine encore que tout ce que vous avez vu d'elle. Je vois, vous êtes jaloux. Personne ne doit se flatter de pouvoir jamais peindre votre idéal. C'est sérieux, mon ami. Votre grand-tante, der Neffe als Onkel, prise au tragique. Horreur! Nous finirons par nous fâcher, Naumann, si vous appelez encore cette dame ma tante. Comment faut-il l'appeler alors? Mrs. Casaubon. Bien, supposons que je fasse sa connaissance malgré vous, et que je découvre qu'elle ait très forte envie de faire faire son portrait. Oui, supposons, dit Will Ladislas d'un ton sourd et grondeur, voulant détourner la conversation. Il se sentait irrité pour des motifs ridiculement insignifiants, qui n'étaient guère même qu'un produit de son imagination. Pourquoi tant d'histoires à propos de Mrs. Casaubon? Et pourtant, il lui semblait que quelque chose venait de lui arriver qui le rapprochait d'elle. Chapitre 8. 2 heures plus tard, Dorothée était assise dans le petit salon d'un joli appartement de la Via Sistina. Je suis fâché de vous dire qu'elle sanglotait amèrement, avec cet abandon d'un cœur oppressé qui se soulage, comme une femme habituée à se dominer par orgueil pour sa dignité et par souci des autres, se le permet parfois, lorsqu'elle est seule et sans risque d'être observée. Et M. Casaubon ne devait certainement pas revenir de sitôt du Vatican. Dorothée, pourtant, n'avait pas de chagrin bien défini qu'elle pût s'expliquer à elle-même au milieu de ses pensées et de ses sentiments confus. La réflexion qui cherchait à se faire jour, c'était un cri accusateur contre elle-même, lui disant que cet excès de désespoir était la faute de sa pauvreté d'esprit. Elle avait épousé l'homme de son choix. Elle avait, sur la plupart des jeunes filles, l'avantage d'avoir surtout envisagé dans le mariage le commencement de devoirs nouveaux. Du premier jour, elle avait vu dans M. Casaubon un esprit tellement supérieur au sien qu'elle s'attendait bien à ce qu'il fût souvent réclamé par des travaux auxquels elle ne pourrait prendre part. Aujourd'hui, après l'expérience bornée de sa vie de jeune fille, elle avait le bonheur de voir Rome, la cité de l'histoire visible et réelle, où le passé de toute une moitié du monde semble se mouvoir comme une procession funèbre, avec d'étranges images de l'Antiquité et de merveilleux trophées. Mais cette prodigieuse diversité de débris augmentait l'étrangeté du commencement de sa vie de femme et en faisait comme un rêve. Dorothée venait de passer 5 semaines à Rome, et par d'agréables matinées où l'automne et l'hiver semblaient se donner la main, comme un vieux couple heureux, dont un de ses membres va bientôt survivre à l'autre dans une solitude glaciale, elle avait parcouru la ville en voiture, d'abord avec M. Casaubon, et dans les derniers temps, surtout avec Tantripp et leur excellent courrier. On l'avait menée dans les plus belles galeries, au point de vue les plus célèbres, on lui avait montré les ruines les plus grandioses, les églises les plus glorieuses. Et elle avait fini par préférer à tout le reste une promenade dans la campagne, là où elle pouvait se sentir seule avec la terre et le ciel, loin de l'écrasante mascarade des siècles passés, qui semblait parfois jeter sur sa propre vie un masque également énigmatique. Pour ceux qui ont apporté à l'étude de Rome les ressources d'une science qui aspire comme une âme nouvelle dans toutes les révélations historiques, retraçant les transitions invisibles qui unissent tous les contrastes, pour cela, Rome peut être encore le centre et le miroir du monde, mais qu'il veuille bien concevoir un contraste historique de plus. Qu'il se représente les révélations gigantesques de toutes sortes tombant tout d'un coup de cette cité impériale et papale sur toutes les idées d'une jeune fille élevée dans le puritanisme de la Suisse et de l'Angleterre, nourrie d'histoires protestantes, arides et étroites, ne connaissant guère de l'art que la petite peinture de demoiselle, d'une jeune fille qui, avec sa nature ardente, employait le peu de science qu'elle possédait à se former des principes pour y conformer ses actes, dont les émotions rapides donnaient immédiatement aux choses les plus abstraites le caractère d'un plaisir ou d'une peine. D'une jeune fille, enfin, qui venait de devenir une femme, et que son acceptation enthousiaste de devoirs encore inconnus venait de plonger dans une préoccupation tumultueuse de sa destinée. Le poids de l'inintelligible Rome peut sembler léger à ces brillantes nymphes qui n'y voient qu'un décor pour les joyeux pique-niques de la société étrangère. Mais Dorothée n'avait pas, contre les impressions profondes de sa nature, de semblables recours. Les ruines, les basiliques, les palais, les colosses s'élevant au milieu d'un présent avili, où tout ce qui était vivant et animé semblait plongé dans la dégradation d'une outrageante superstition, tous ces vastes débris d'ambition terrestre ou d'idéal spirituel, confusément mêlés avec les signes manifestes de l'oubli et de la décadence, la frappèrent d'abord comme d'un choc électrique, puis s'appesantirent douloureusement sur elle en une accumulation d'idées confuses, prêtes à faire déborder le flot de son émotion. Tantôt pâle, tantôt ardente, des images s'emparaient de sa jeune âme, et se fixait, même à son insu, dans sa mémoire, préparant ainsi d'étranges associations qui devaient l'accompagner durant les années de sa maturité. Toute sa vie, quand il lui arriva de se trouver dans des états d'abandon, de morne tristesse, Dorothée continua à revoir au-dedans d'elle-même la grandeur majestueuse de Saint-Pierre, l'énorme coupole de bronze, l'ardeur et l'enthousiasme des prophètes et des évangélistes, éclatant sur les mosaïques des plafonds et par-dessus le tout les grandes tentures rouges du jour de Noël. Ce n'est pas que cet effroi intérieur de Dorothée eût rien de bien exceptionnel. Combien de jeunes âmes, dans toute leur virginité, sont jetées ainsi au milieu des complexités troublantes de la vie et ont à s'y frayer seules un chemin, pendant que les aînés s'en vont à leurs affaires. On ne considérera pas non plus comme bien tragique, je suppose, ce fait de découvrir Mrs. Casaubon dans un accès de pleurs 6 semaines après son mariage. Il n'est pas exceptionnel d'éprouver quelque découragement ou quelque défaillance de cœur en découvrant quel est l'avenir réel qui prend la place de notre avenir imaginaire. Et nous ne nous attendons pas que l'on s'émeuve profondément de ce qui n'est pas exceptionnel. Nos cœurs ne s'affectent plus des malheurs trop communs, et c'est un bien, car peut-être seraient-ils incapables de les supporter. Si nous avions une vision nette de tout ce qui se passe dans chaque vie humaine, ce serait comme d'avoir des sens assez aiguisés pour entendre pousser les brins d'herbe et battre le cœur de l'écureuil, et nous succomberions sans doute en surprenant ces bruits d'au-delà du silence. Tous, tant que nous sommes, même les plus subtils, nous portons dans notre promenade à travers le monde comme un épais matelas sur nos esprits obtus. Cependant, Dorothée pleurait, et si elle avait dû en expliquer la cause, elle n'eût pu trouver pour le faire que des paroles vagues et générales comme les miennes. En donner une explication plus précise et plus directe eût été pour elle aussi difficile qu'il nous le serait de faire une histoire des ombres et des lumières. Car l'avenir réel, qui remplaçait pour elle l'avenir imaginaire, puisait sa substance même dans les 1000 petites particularités qui venaient discrètement influencer toutes ses idées sur M. Casaubon et sur ses rapports d'épouse avec lui, les éloignant peu à peu de ce qu'elles avaient été dans son rêve de jeune fille. Il était encore trop tôt pour qu'elle pût se rendre compte d'un tel changement, bien trop tôt, par conséquent, pour qu'elle eût l'idée d'avoir à faire appel, vis-à-vis de M. Casaubon, à cet élément indispensable de la vie de son âme, à ce sentiment toujours intact chez elle, le dévouement. La révolte permanente, le décousu d'une vie privée de toute grande tâche d'amour et de respect, ne lui était pas supportable. Mais elle était alors dans une situation intermédiaire où l'énergie même de sa nature ne faisait qu'augmenter son trouble. Les premiers mois du mariage sont ainsi souvent un temps critique d'incertitude et de lutte, que ce soit l'agitation d'un pauvre petit marais ou de masses d'eau profonde. Et ce tumulte fait place ensuite à la sérénité. M. Casaubon était-il moins savant qu'auparavant? Sa manière de s'exprimer avait-elle changé, ou ses sentiments étaient-ils devenus moins louables? Oh, humeur changeante de la femme! Sa chronologie lui faisait-elle défaut, ou son aptitude à vous énoncer non seulement une théorie, mais encore les noms de ceux qui la professaient, ou sa facilité à énumérer, à la première demande, les points principaux d'un sujet quelconque? Et Rome n'était-elle pas, dans tout l'univers, le lieu le plus propre à donner libre cours à de si rares talents? L'enthousiasme de Dorothée elle-même n'avait-il pas eu sa source principale dans la perspective d'alléger le pesant fardeau et peut-être la tristesse que causait souvent sa tâche laborieuse à celui qui l'avait entreprise? Et il était plus clair que jamais que cette charge et cette tristesse pesaient sur M. Casaubon. Les réponses à ces questions sont aussi simples que décisives. Mais sans que rien d'autre eût changé, l'éclairage avait changé. Vous ne pouvez plus, en plein midi, découvrir la brillante aurore. Fait éternellement vrai, l'homme dont vous ne connaissez la nature que par ses entrées et ses sorties rapides, durant les quelques semaines de fiançailles où l'imagination joue un si grand rôle, cet homme peut, à le voir dans la continuité journalière des rapports de mari à femme, se révéler meilleur ou pire que ce que vous aviez pressenti. Mais, certainement, il n'apparaîtra jamais absolument le même. Nous commençons par savoir peu et croire beaucoup, et nous finissons quelquefois par tout le contraire. Nul homme, cependant, n'était plus incapable que M. Casaubon d'affecter ce qu'il n'était pas. Son caractère était aussi sincère que celui de n'importe quel animal ruminant. Et certes, ce n'était pas lui qui avait contribué à édifier les illusions que Dorothée s'était créées sur son compte. Comment se fait-il que, durant les semaines qui suivirent son mariage, Dorothée eût senti avec une douloureuse angoisse, sinon clairement distinguée, que les grandes perspectives, les vastes et purs espaces qu'elle avait rêvé de trouver dans l'âme de son mari, étaient remplacés par d'étroits corridors, des passages sinueux qui semblaient ne mener nulle part. Durant les fiançailles, on regarde tout comme provisoire et comme préliminaire. On prend la plus mince preuve de vertu ou de talent pour l'échantillon d'un trésor inépuisable que nous révéleront les loisirs plus étendus du mariage. Mais une fois le seuil du mariage franchi, c'est sur le présent que se concentrent l'attente et l'espérance antérieure. Une fois embarqué sur la galère conjugale, vous êtes bien forcé de vous apercevoir que vous n'avancez pas, que vous n'avez même pas la mer à portée du regard, que vous ne faites qu'explorer un bassin clos de tous côtés. Monsieur Casaubon, avant son mariage, avait bien souvent insisté sur des points ou des détails suspects dont Dorothée ne pouvait saisir le véritable sens. Mais cette légère lacune dans l'accord de leurs âmes pouvait alors facilement s'expliquer, et, appuyée sur sa confiance dans l'avenir, elle avait écouté avec une patience respectueuse l'énumération de tous les arguments que l'on pourrait alléguer contre l'opinion toute nouvelle de M. Casaubon sur le dieu philistin Dagon ou autre dieu poisson. Elle songeait qu'elle aussi, plus tard, arriverait sans doute, sur ce sujet qui le touchait de si près, au même point de vue qui en faisait pour lui quelque chose de si important. De même, pouvait-on facilement attribuer la légèreté et le ton dédaigneux avec lesquels il traitait les questions qui la touchaient le plus, à l'état de préoccupation et de fièvre où il était, et qu'elle-même avait partagé, durant leur temps de fiançailles. Mais aujourd'hui, depuis qu'ils étaient à Rome, émue par tous les courants de sa sensibilité, arrivée en elle à un bouillonnement tumultueux, ayant devant elle de nouveaux problèmes de vie, elle s'était aperçue de plus en plus clairement, et avec une confuse terreur, que son cœur se laissait aller à de continuels accès de colère, de répulsion, de lassitude désespérée. Elle n'avait aucun moyen de savoir si le judicieux Hooker, ou tout autre héros de l'érudition, eût ressemblé à M. Casaubon à cette période de sa vie. Aussi ne pouvait-il pas même profiter des avantages de la comparaison. Mais la façon dont son mari lui commentait les objets qui les entouraient, si étrangement faits pour impressionner, l'avait bientôt affecté d'une sorte de frisson mental. Peut-être avait-il la meilleure intention du monde de s'acquitter convenablement de son devoir, mais dans tous les cas, rien que par manière d'acquis. Ce qui était neuf et frais pour son cœur, à elle, était déjà vieux et usé pour le sien. La faculté de penser et de sentir qu'avait excité en lui la vie générale de l'humanité s'était depuis longtemps réduite à une sorte de sec et froid raisonnement, à un embaumement de science sans vie. Quand il disait « Cela vous intéresse-t-il, Dorothée? Resterons-nous ici encore un peu ?»« Je suis prête à rester, si vous le désirez. » Il lui semblait que rester ou s'en aller était également triste. Ou bien, voudriez-vous aller à la Farnésine, Dorothée? Elle renferme des fresques célèbres, dessinées ou peintes par Raphaël, et que beaucoup de personnes jugent dignes d'être visitées. Mais cela vous intéresse-t-il, vous? Était toujours la réponse de Dorothée. Je les crois très estimés. Il y en a qui représentent la fable de Cupidon et de Psyché, qui est probablement l'œuvre romanesque d'une certaine époque littéraire, mais ne saurait être considérée, à ce qu'il me semble, comme un véritable produit mythique. Si vous aimez ces peintures murales, nous pouvons facilement y aller en voiture, et alors je crois que vous aurez vu les principales œuvres de Raphaël, dont il serait dommage d'omettre une seule pendant un séjour à Rome. C'est le peintre qui a su combiner la grâce la plus parfaite de la forme avec la sublimité de l'expression. Telle m'a du moins paru être l'opinion des connaisseurs. Ce genre de réplique, faite d'un ton mesuré, aussi officiel que celui d'un pasteur officiant selon les rites, ne contribuait pas à faire éclater à ses yeux les gloires de la cité éternelle. ou à lui faire espérer qu'une connaissance plus complète de ses merveilles en éclairerait le monde pour elle d'une plus radieuse lumière. Il n'y a guère pour une jeune et ardente nature de contact plus déprimant que celui d'un esprit que de longues années de science et d'érudition ont amené à une absence totale d'intérêt ou de sympathie. Sur d'autres sujets, pourtant, M. Casaubon faisait preuve d'une opiniâtreté de travail et d'une activité qu'on regarde généralement comme un effet de l'enthousiasme. Et Dorothée était anxieuse de suivre avec lui cette direction naturelle de ses idées. Elle ne voulait pas surtout qu'il pût jamais lui faire sentir qu'elle était pour lui une entrave dans cette voie. Mais graduellement, elle cessait de croire et d'espérer, avec sa joyeuse confiance d'autrefois, que là où elle le suivrait, elle découvrirait de vastes perspectives nouvelles. Le pauvre M. Casaubon lui-même se perdait dans de petits recoins, dans des escaliers sinueux, et dans ses conceptions troubles, dans ses expositions obscures des dieux Kabir et de tous les parallèles imparfaits des autres mythologistes, il perdait facilement de vue l'objet initial de son œuvre. Quand il avait son flambeau allumé devant lui, il oubliait le manque de fenêtres, et au milieu de ses notes et de ses critiques sur les travaux des autres savants, il en arrivait, en s'absorbant dans les divinités solaires, à devenir indifférent à la lumière du soleil. Chez M. Casaubon, ses traits de caractère, fixes et immuables comme son ossature, eussent pu échapper plus longtemps à Dorothée s'il l'eût encouragé à donner un libre cours à ses sentiments de femme et de jeune fille, si, tenant ses mains entre les siennes, il eût écouté avec le délice de la sympathie et de la tendresse les récits de tout ce qui constituait son expérience à elle, et s'il lui eût accordé en retour la même espèce d'intimité, faisant de la vie passée de chacun d'eux une partie de leur science et de leur affection mutuelle. Ou encore, si elle avait pu trouver un aliment à son affection dans ses caresses d'enfant, qui sont un besoin pour toute femme tendre, depuis le jour où elle a commencé par couvrir de baisers la tête chauve et dure de sa poupée, créant des trésors de son amour, une âme heureuse dans ce corps de bois. Dorothée, dans l'ardeur de son âme, eût été heureuse de baiser les manches de l'habit de M. Casaubon ou les lacets de ses souliers, s'il lui eût seulement donné un autre signe d'encouragement que de la déclarer, avec sa gravité toujours correcte, une nature essentiellement féminine et affectueuse, tout en lui marquant par sa manière polie de lui avancer un siège, combien il trouvait d'enfantillage et d'exagération dans ses manifestations. Quand il s'était acquitté le matin, avec tout le soin convenable de sa toilette de ministre, il pouvait être préparé pour ces petites aménités de la vie correspondant à un esprit chargé de matières inédites, et dont la raide cravate empesée de l'époque était l'image, mais pas pour d'autres. Et par un triste contraste, les idées et les résolutions de Dorothée semblaient une glace fondante, perdue et flottante dans un courant chaud dont elle n'avait été qu'une première forme. Incapable de rien apprendre autrement que par le cœur, elle était humiliée de se sentir victime du sentiment. Toute sa force se perdait en accès d'agitation, de lutte, de désespoir. Puis de nouveau lui revenaient ses visions d'une vie de renoncement, transformant en devoir toutes les dures conditions de l'existence. Pauvre Dorothée ! Dans cet état, elle était certainement importune à elle-même. Mais ce jour-là, pour la première fois, elle devint importune à M. Casaubon. Elle s'était mise à table pour déjeuner avec la ferme résolution de secouer ce qu'elle appelait intérieurement son égoïsme. Et elle tourna vers son mari un visage rempli d'animation et d'intérêt quand il lui dit « Il faut, ma chère Dorothée, comme à des préliminaires de départ, songer maintenant à tout ce que nous n'avons pas encore fait ici. Je serais volontiers revenu plus tôt en Angleterre, afin d'être à Lowick pour le moment de Noël. Mais mes recherches se sont forcément prolongées au-delà de mes prévisions. Je crois cependant que notre séjour ne s'est pas écoulé pour vous d'une manière désagréable. Parmi toutes les curiosités de l'Europe, Rome a toujours compté dans les plus saisissantes, et même les plus édifiantes sous certains rapports. Je me souviens toujours que je considérais comme une époque dans ma vie celle où je la visitais pour la première fois. C'était après la chute de Napoléon, événement qui rouvrait le continent aux voyageurs. En vérité, je crois que c'est une des villes auxquelles on a appliqué cette hyperbole emphatique « voir Rome et puis mourir ». Mais pour vous, je proposerai une légère altération au texte et je dirai « voir Rome en nouvelle mariée et vivre désormais en femme heureuse ». M. Casaubon prononça ce petit discours avec la plus consciencieuse intention de remplir son devoir, clignant de l'œil, balançant la tête et concluant par un sourire. Il n'avait pas trouvé que l'état de mariage fût précisément un délice, mais il n'avait pas d'autre pensée que d'être un mari irréprochable et de rendre sa charmante jeune femme aussi heureuse qu'elle méritait de l'être. Vous êtes, je l'espère aussi, pleinement satisfait de notre séjour, je veux dire de son résultat pour vos études, dit Dorothée, essayant de fixer son esprit sur le sujet qui intéressait le plus son mari. Oui, dit M. Casaubon avec cette intonation particulière de la voix qui fait de ce mot une demi-négation. J'ai été entraîné plus loin que je ne le pensais. Plusieurs points utiles à noter se sont présentés, et sans en avoir directement besoin, je ne pouvais cependant les omettre. Cette tâche, malgré l'assistance d'un secrétaire, a été tant soit peu laborieuse, mais votre société m'a heureusement préservé de cette préoccupation d'idées trop continue qui me poursuivait en dehors de mes heures de travail, et qui a été la plaie de ma vie solitaire. Je suis bien aise que ma présence ait apporté quelques différences pour vous, dit Dorothée qui se rappelait distinctement certaines soirées où il lui avait semblé que l'esprit de M. Casaubon avait dû descendre dans la journée à de trop grandes profondeurs pour pouvoir remonter ensuite à l'air libre. J'espère, lorsque nous serons à Lowick, pouvoir vous être plus utile et prendre une part un peu plus grande à ce qui vous intéresse. Sans doute, ma chère, dit M. Casaubon en s'inclinant légèrement. Les notes que j'ai prises ici demanderont à être mises au net, et, si vous le voulez bien, vous pourrez vous en occuper sous ma direction. Et tous vos manuscrits, reprit Dorothée, dont le cœur s'était déjà enflammé silencieusement sur ce sujet, au point de ne pouvoir plus maintenant s'empêcher de l'aborder, toutes ces rangées de volumes, n'en ferez-vous pas maintenant ce dont vous aviez l'habitude de me parler ? Ne vous déciderez-vous pas à en extraire tout ce qui pourra être utile? Et ne commencerez-vous pas à écrire ce livre, qui devra faire profiter le monde de votre vaste érudition? J'écrirai sous votre dictée, ou bien je copierai, je rédigerai ce que vous me direz. Je ne puis pas être bonne à autre chose. Dorothée, de la façon la plus inexplicable, dans toute la confusion de ses obscures sensations féminines, s'arrêta avec un léger sanglot, et ses yeux se remplirent de larmes. Cette marque d'exagération dans ses sentiments n'était pas pour plaire à M. Casaubon. Mais une autre raison devait lui faire trouver les paroles de Dorothée les plus blessantes et les plus irritantes qu'elle eût pu employer. Elle était aveugle devant les troubles intérieurs de son cœur à lui, comme il l'était lui-même devant ceux de Dorothée. Elle n'avait pas encore appris à connaître dans l'âme de son mari ces luttes cachées qui ont droit à notre pitié. Elle n'avait pas encore eu la patience d'écouter les battements de son cœur, ne sentant que les agitations violentes du sien propre. La voix de Dorothée résonnant à l'oreille de M. Casaubon semblait accentuer d'une forme claire ces sourdes suggestions de sa conscience qu'il avait pu prendre jusque-là pour un effet d'imagination ou pour l'illusion d'une sensibilité exagérée. Mais lorsque nous entendons répéter tout haut ces suggestions secrètes, nous n'y voulons plus voir que dureté et injustice, et nous nous dressons pour y résister. Le simple fait d'avoir à nous faire nous-mêmes un aveu humiliant nous aigrit. Combien ne nous sentons-nous pas plus aigris encore en entendant sortir des lèvres d'un observateur sagace, en syllabes distinctes, nettement articulés, ces murmures confus de notre âme que nous essayons de traiter de maladifs, et contre lesquels nous nous révoltions, n'y voulant voir qu'un commencement d'engourdissement. Et ce cruel accusateur du dehors était là, sous la forme d'une femme. Non d'une jeune mariée, qui, au lieu de considérer ses compendieux manuscrits et l'abondance de ses papiers avec le respect superstitieux d'un léger petit canari, semblait se changer en un espion doué pour surveiller toute chose d'un pouvoir d'induction maligne. Sur tout ce qui touchait à ce point spécial, M. Casaubon possédait une sensibilité égale à celle de Dorothée, et une non moins rare promptitude à s'en imaginer beaucoup plus qu'il n'y en avait. Il avait observé d'abord avec satisfaction la capacité qu'avait Dorothée d'estimer à sa valeur un objet qui en était si digne. Il s'aperçut maintenant, avec une soudaine terreur, que cette capacité pouvait bien faire place à de la présomption, cette estime à la plus exaspérante de toutes les critiques, celle qui conçoit vaguement la hauteur du but poursuivi, mais n'a pas la moindre notion de la peine qu'il en coûte pour y atteindre. Pour la première fois depuis que Dorothée le connaissait, un rapide éclair passa sur le visage de M. Casaubon. « Mon amour, dit-il avec une irritation contenue par la bienséance, vous pouvez me laisser le soin de connaître les temps et les saisons qui conviennent aux différents degrés d'une œuvre, dont la mesure est au-dessus des conjectures de spectateurs ignorants et superficiels. Il m'eût été facile de demander au tirage d'opinion en l'air un succès passager, mais l'épreuve du chercheur scrupuleux sera toujours d'être saluée par la dédaigneuse impatience des bavards qui ne poursuivent que de mesquines entreprises, n'étant pas équipés pour les autres. Et il serait bon que l'on priât tous ces bavards de distinguer entre des jugements dont le véritable objet échappe absolument à leur portée et des jugements dont une observation bornée et superficielle suffit à rassembler les éléments. » Casaubon prononça ce discours avec une énergie et une volubilité tout à fait inusitées chez lui. C'est que ce n'était pas, à vrai dire, une simple improvisation. Toutes ses idées avaient déjà pris corps dans un colloque intérieur avec lui-même, et elles s'échappaient aujourd'hui comme le noyau d'un fruit que fait éclater une chaleur soudaine. Dorothée n'était pas seulement sa femme, elle était la personnification de ce monde frivole qui entoure l'auteur méconnu et désespéré. À son tour, Dorothée fut irritée. N'avait-elle pas étouffé tous les sentiments de son cœur pour y conserver le désir unique de s'associer autant qu'il serait possible aux grands intérêts de son mari? Mon jugement était sans doute un jugement superficiel, comme je suis capable d'en former, répondit-elle avec un prompt ressentiment qui n'avait pas besoin de réfléchir. Vous m'avez montré les rangées de vos volumes de notes, vous m'en avez souvent parlé, vous m'avez dit souvent qu'elles avaient besoin d'être rédigées. Mais je ne vous ai jamais entendu parler de l'œuvre que vous vouliez publier. Ces choses-là étaient très simples à comprendre, et mon jugement n'est pas allé plus loin. Je vous demande seulement de me permettre de vous être bonne à quelque chose. » Dorothée se leva pour quitter la table, et M. Casaubon, sans répondre, prit une lettre déposée à côté de lui, comme pour la relire attentivement. Ils étaient froissés tous deux de leur situation mutuelle, de ce que chacun d'eux eût trahi de la colère envers l'autre. S'ils avaient été chez eux, installés à Lowick, dans la vie ordinaire, entourés de leurs voisins, le choc eût été moins embarrassant. Mais pendant un voyage de noces, dont le but exprès est d'isoler deux êtres, sous le prétexte qu'ils sont l'univers l'un pour l'autre, le sentiment du désaccord entre eux est, pour ne pas dire plus, quelque chose de confondant et d'écrasant. Changer son méridien, se placer dans une solitude morale afin de diminuer les points de contact périlleux, trouver un sujet de conversation et se tendre un verre d'eau sans se regarder n'est déjà pas une situation bien satisfaisante, même pour les cœurs les moins délicats. Pour la sensibilité encore dépourvue d'expérience de Dorothée, c'était une catastrophe qui renversait toutes ses perspectives d'avenir. Et pour M. Casaubon, c'était aussi une peine toute nouvelle. Il n'avait jamais fait auparavant de voyage de noces. Jamais non plus il ne s'était encore trouvé avec personne dans cette étroite union qui allait devenir pour lui un assujettissement plus grand qu'il ne l'avait imaginé. Non seulement sa jeune et charmante femme exigeait de lui beaucoup de considération, il ne la lui avait pas marchandée, mais elle venait de se montrer capable de l'agiter cruellement, sur un sujet où il aurait eu précisément besoin d'un calmant. Au lieu du rempart tutélaire qu'il avait voulu se donner contre ce cortège de pensées, froid et brumeux auditoire de sa vie sans enthousiasme, il n'avait fait que lui fournir un corps plus substantiel. Pour le moment, aucun d'eux ne trouvait possible d'adresser la parole à l'autre. Changer les dispositions arrêtées, refuser de sortir, c'eût été, de la part de Dorothée, faire preuve d'une persistance d'irritation devant laquelle sa conscience recula, car elle commençait à se trouver des torts. Si juste que fût son indignation, son idéal n'était pas de réclamer justice, mais de donner de la tendresse aux autres. Aussi, quand la voiture fut arrivée devant leur porte, elle partit avec M. Casaubon pour le Vatican, traversa avec lui la galerie des inscriptions, et, après l'avoir quitté à l'entrée de la bibliothèque, elle continua à errer dans le musée, indifférente à tout ce qui l'entourait. Elle n'avait nul désir de rentrer ni de se faire mener ailleurs. C'était au moment où elle se séparait de M. Casaubon que Naumann l'avait aperçue pour la première fois. Lorsqu'il la retrouva plus tard dans la salle des statues, c'était la méditation rêveuse dans laquelle elle était plongée qui rendait pour un artiste son attitude si remarquable. En réalité, Dorothée ne voyait pas plus le rayon de soleil tombant sur le sol que les statues autour d'elle. Elle voyait au-dedans d'elle-même la lumière des années qui allaient se succéder dans son propre home, au milieu des champs, des ormes, des routes bordées de haies de l'Angleterre, et le chemin de la vie à travers ces années qu'elle avait voulu remplir de dévouement et de sérénité ne lui apparaissait plus aussi clair qu'autrefois. Mais il y avait dans l'âme de Dorothée un courant qui, tôt ou tard, entraînait toutes ses pensées et tous ses sentiments. C'était son aspiration, l'acheminement de tout son être vers la vérité éternelle, vers le bien le plus désintéressé de ce monde. Sûrement, il existait quelque chose de meilleur que la colère et le désespoir.